Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, sans quitter Montpellier, nous allons faire un tour en Europe. En tout cas, avec des photographes européens, nous allons découvrir les visions novatrices et imaginatives. Ce sont les rencontres photographiques de Montpellier qui, sous la dénomination plus connue de boutographie, propose ce voyage pour la 25e fois. Pour nous en parler, j'ai fait appel au meilleur guide qui soit, Christian Macota, directeur artistique des boutographies depuis 2007. Christian Macota, merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, vous n'arrivez pas de la Lune, vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de photographie d'art, vous êtes vous-même photographe, vous avez consacré un master de recherche historique à la photographie, et depuis 10 ans, vous accompagnez des photographes en écrivant sous différentes formes. Avant de parler de photographie, racontez-nous d'abord votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités par petites touches successives, semaine après semaine. Quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché et que vous recommandez à vos amis de passage ?
Alors j'aurais du mal à en choisir un parce que, pour moi, Montpellier, c'est un ensemble dans lequel je baigne depuis longtemps.
Une atmosphère.
Une atmosphère, bon, notamment tous les cuissons, hein, où on peut se promener des heures en flânant. Alors, je dois dire, j'ai mis un certain temps à apprécier cette ville parce que finalement, elle n'est pas très spectaculaire, elle est assez sobre. Et c'est ça que j'ai appris à aimer au fil du temps, c'est-à-dire cette architecture qui est simple, mais dans laquelle je me sens très bien. Bon, avec quelques points qui m'attirent spécialement, je citerai, mais c'est un endroit où on ne peut pas tout le temps accéder, mais qui est très très beau, c'est là où est située la maison de Heidelberg, oui. Le centre culturel allemand, oui. Qui est un lieu privé, mais auquel on peut accéder notamment...
Un des hôtels particuliers voilà. de Montpellier. Oui.
On peut y accéder notamment au moment des boutographies, puisqu'on y a une exposition en lien avec le centre culturel, donc c'est un endroit vraiment... Très, très beau et très
rue
secret.
Rue des Trésoriers de la Bourse, non, c'est rue...
Alors, c'est dans le quartier des rues piétonnes, hein, c'est...
Bon, bref.
C'est vraiment le cœur de ville.
Le cœur de ville. Très bien. Et deuxième question, avant qu'on on vienne au sujet qui vous conduit à nous. Vous avez vu la ville évoluer, elle a beaucoup changé, cette ville, hein, sa croissance démographique, son expansion urbanistique. En tant que citoyen, en tant que piéton de Montpellier, quel jugement vous portez sur ces mutations très fortes que notre ville a connues ?
Oui, je les ai vues parce que ça fait 40 ans maintenant que je suis ici. Donc je pense que c'est ces 40 années qui ont été vraiment décisives dans ce qui est devenu la ville. C'est devenu une très grande ville, mais bon, personnellement, moi je suis un urbain, donc ça me gêne pas. Et d'autant plus que Montpellier a gardé ce cœur très, très à taille humaine, avec un cœur de ville qui reste celui d'une ville moyenne finalement, et qui a été beaucoup piétonnisée, beaucoup protégée. Et puis, elle a grandi, mais avec un réseau de transport qui a aussi, en partie, traité les questions de circulation dans un ensemble qui est devenu complexe. Et donc, bon, c'est pour moi, c'est une ville qui reste extrêmement agréable à vivre. Et je pense qu'elle est comme beaucoup d'autres grandes villes, mais peut-être que... La façon dont elle a été gérée depuis 40 ans, et là je ne veux pas tresser le laurier à personne en particulier, mais bon, ce que je vois, c'est que c'est une ville qui recueille un peu les fruits quand même d'une gestion qui, depuis peut-être 40 ans, a accordé de l'attention à
c'est
ce
ça,
qui
c'est
est...
C'est le mot qui venait, attention.
À ce qui est l'urbain, à ce qui est la culture,
l'urbain,
à ce qui est
l'urbanité.
L'urbanité, exactement. À ce qui est la jeunesse, à ce qui est... Et on s'est occupé des quartiers. Et évidemment, il y a plein d'imperfections, mais je crois qu'aujourd'hui, on goûte les fruits d'une politique humaniste et éclairée quand même. Et parfois, on oublie que ce n'est pas le cas partout. Voilà.
Très bien. Alors, avant d'avenir aux photographies... Je crois que ça serait bien que vous disiez à nos auditeurs ce qui explique votre passion, quel est le ressort de votre engagement pour la photographie.
Alors, c'est une passion tellement profonde que je ne sais pas trop d'où elle vient.
Mais en tout cas, elle est ancienne.
Elle est très ancienne et elle n'a jamais cessé, donc ça doit être assez grave comme maladie. Et oui, c'est, en fait, ça a démarré dans ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 80, les foyers d'éducation populaire qui ont amené tellement de gens à tellement de passion, et ça a été mon cas, en l'occurrence sur la photo, mais aussi sur le cinéma, sur toutes ces choses-là. Et donc ça a commencé très tôt et ça m'a jamais quitté, puisque ça a été une pratique, puis une pratique au service des autres, et ça a été quelque chose de très envahissant, oui, tout le temps.
Très bien. On va en faire la démonstration au fil de l'émission. Alors, photographie comme boutonnée et photographie, c'est dans ce quartier de Boutonnet que les photographies sont nées en 2001, depuis qu'elles ont rayonné bien au-delà, notamment à partir du pavillon populaire. Mais il est fermé pour rénovation jusqu'au 2 décembre. Il rouvrira avec une exposition consacrée à Raymond Depardon et intitulée « Extrême Hôtel ». Alors, comment avez-vous pu faire face à ce problème de voir disparaître ce qui était un peu le cœur battant des photographies ces précédentes années ?
Oui, c'est un vrai souci parce que le pavillon populaire, c'est un lieu exceptionnel et qui est fait pour la photographie. Donc, ce n'était pas simple de le remplacer. Et quand la ville nous a proposé l'ex-médiathèque Fellini, on a été évidemment très soulagés, bien que l'état initial était très dégradé puisque c'était inutilisé, comme vous savez, depuis des années. Mais il y a eu une belle rénovation en profondeur et finalement, le lieu convient tout à fait à un événement comme le nôtre.
Très bien. Donc c'est là où il faut peut-être commencer ces visites, en tout cas y passer. Alors, rappelons aussi quelques fondamentaux. Quelle est la vocation des photographies par rapport aux autres manifestations sur la photo? Qu'est-ce qui vous distingue et vous distingue depuis toujours en définitive?
Alors c'est... Bon, on a plein de points communs avec les autres festivals, mais peut-être de spécifique de s'adresser à de la photo très contemporaine. C'est les auteurs que l'on montre sont souvent jeunes, voire très jeunes.
Des pionniers, en tout cas des défricheurs.
Voilà, donc c'est des jeunes qui sont souvent en période de sortie d'école ou en début de professionnalisation, donc dans un moment où ils sont très libres aussi de leur choix artistique. Et puis c'est le champ européen. Dès le départ, on est d'ailleurs une équipe qui est très multinationale, avec des gens de diverses provenances européennes.
On va en parler, oui.
Voilà, donc il y a une ouverture qui petit à petit s'est consolidée vers des écoles de beaucoup de pays européens et des réseaux européens qui font qu'on a un afflux de candidatures et qu'on travaille à partir de cette photo qui est vraiment en résonance avec le monde d'aujourd'hui.
Alors donc on va voir ça de plus près. Donc la partie officielle, je dirais, comporte donc aux échelles de la ville, comme on l'a dit, 8 expositions et 10 projections. On parlera des projections jusqu'au 1er juin. Donc je rappelle que c'est entre les galeries Lafayette et la place Paul Bec, à hauteur des escalators, dans une partie de l'ancienne médiathèque Fellini. Alors comment opérez-vous? Vous avez fait allusion, c'est la sélection, la recherche, la sélection, la prospection, pour trouver, pour chercher le meilleur, ou en tout cas une partie du meilleur de cette jeune production de la photo en Europe.
Alors c'est un mélange de prospection et d'appel à candidature. La prospection se traduisant par des appels à candidature, puisque tout le monde doit passer par cet appel. Et ça produit un afflux, puisqu'on a entre 5 et 600 dossiers annuellement de toute l'Europe. Parmi lesquels on a la dure mission d'extraire ce que nous sommes en mesure de montrer, c'est-à-dire 8 expos sur les murs et une 10-15 selon les années en projection. Voilà. Et c'est un jury qui est composé de 5 personnes qui change chaque année, sauf moi qui assure une sorte de fil rouge en tant que directeur artistique, et qui viennent de différents registres photos. On a des gens qui viennent plutôt du documentaire, d'autres des arts plastiques, d'autres de l'édition ou de la curation de festivals, donc des gens qui ont une expertise nationale.
Donc là, le président est le fondateur d'un festival à Guernesey, c'est ça,
c'est ça, photo, c'est ça. Et qui vient de prendre la direction d'un autre festival à Rennes, oui. Jean-Christophe Godet.
Alors, je vais citer les noms de ces photographes. Bon, ils ne vont pas dire grand-chose, notamment parce que ça a été dit, parce que c'est des nouveaux venus dans cet univers de la photo. Donc, il s'appelle Giulio Favotto, en provenance d'Italie, Federico Estol, à la fois issu d'Italie et d'Uruguay, Tomasz Kawecki, on m'excusera les prononciations, un Polonais, Manuela Lorente-Cort, une Espagnole, Masha Wysoka, qui trouve ses racines en Espagne, en Belgique, Balázs Turóz, venu d'Hongrie, Sacha Velichko de Biélorussie et une Française, Rima Saman. Alors, cette sélection, qui est extrêmement compliquée pour passer de 560 à 8, comment vous analysez, je dirais un peu d'abord, la provenance géographique, puisqu'encore une fois, l'espace dans lequel vous regardez, bon, sans avoir bien sûr des frontières impératives, c'est l'Europe. Qu'est-ce que ça raconte ? D'où viennent ces jeunes et ardents photographes ?
Alors, ce qu'on note depuis ces dernières années, là, c'est une montée des dossiers qui viennent d'Europe centrale. Donc on a eu pendant longtemps beaucoup de candidats qui venaient d'Allemagne, de Suisse, de Belgique, de l'Europe occidentale au sens un peu historique et géographique. Et là, on a de plus en plus, et ce n'est pas vraiment une surprise, parce que c'est vrai, je pense, dans divers domaines artistiques, hein, de gens qui viennent de Pologne, de Hongrie, de Biélorussie. Biélorussie, c'est plus rare, mais Hongrie, Pologne, depuis quelques années, beaucoup, et avec un niveau de qualité qui est assez impressionnant.
Et ça traduit une effervescence culturelle et politique dans ces pays, ou en tout cas une émergence des créateurs, pas seulement photographes, j'imagine, venus de l'Europe de l'Est.
Oui, je crois que c'est le signe d'un accès à la liberté d'expression, même si ce n'est pas simple partout, notamment en Hongrie. Mais aussi, c'est lié au fait qu'il y a une histoire, en réalité, dans ces pays qui est longue autour de la photographie. Et donc, il y a des écoles. L'école de Budapest en Hongrie s'appelle Kappa. Bon, voilà, c'est des pays où on
Kappa, né en Hongrie, rappelons-le au passage.
Voilà. Voilà, comme d'autres grands photographes. Donc, c'est en fait, ils renouent avec une grande tradition, mais cette fois avec une liberté d'expression.
Alors, donc, quand vous résumez en quelques mots la photographie, vous dites hors photojournalisme, on pourra y revenir, c'est un échantillon représentatif, qui tente de l'être en tout cas, de la photo documentaire et de la photo de création en Europe. Alors, on a parlé un peu de l'origine des photographes. Quelles sont les grandes tendances ? Les résumants d'une manière peut-être un peu hâtive ou partielle, les traits dominants qui apparaissent, en tout cas dans la génération 2025 là, de la production que vous proposez donc, aux échelles de la ville.
Bon, on a des évolutions qui se poursuivent et qui s'accentuent. C'est du côté de la photo qui devient de moins en moins narratif au sens premier, dans le sens où on raconte une histoire, où on témoigne d'une situation, au profit de regards qui sont de plus en plus personnels, qui sont souvent intimes, ce qui n'empêche pas un regard sur le monde tel qu'il est et un regard assez universel. Mais on a des gens qui partent souvent d'une subjectivité assez très assumée et qui, par ailleurs, construisent des espaces davantage que des alignements que des séries de photos au sens classique. C'est-à-dire que de plus en plus, on a des gens qui sont pluridisciplinaires et qui...
qui s'inspirent d'autres formes d'expression, je ne sais pas quoi, des arts plastiques,
Ou... Cette année, notamment, on a des images qui sont structurées de telle façon que c'est des sculptures. Par exemple, chez Giulio Favotto, c'est de la 3 dimensions, c'est de la sculpture. On a des mises en espace très complexes chez, par exemple, Sacha Velichko aussi, avec des superpositions, avec une intervention du spectateur pour avoir accès à certaines images. Donc, des mises en forme qui sont très travaillées vraiment dans le détail et qui vise à créer du sens, pas seulement par ce qui est montré de façon très lisible par l'image, mais par tout un système, par une construction.
Ouais. Construction visuelle, bien entendu, avec des ingrédients, des apports, des influences qui se croisent, qui se conjuguent.
Oui, alors après sur les thématiques, parce que les formes sont une chose, mais il reste des sujets qui quand même sont là. Et notamment, il y a celle du récit, de ce que racontent des images, de ce qu'on y met comme imaginaire et de ce qu'elles racontent vraiment ou pas. Donc ça, c'est une vieille question, mais qui reste très d'actualité. Qu'est-ce que l'image est capable de nous faire croire et qu'est-ce qu'elle dit vraiment ? Ça, c'est très présent dans la sélection. Et puis, il y a des questions autour...
Les thématiques qui émergent plus particulièrement.
Ouais. Thématiques, cette année, on a beaucoup de choses autour de la paternité, la position du père et du fils. On a plusieurs séries, celle de Favotto, celle de Touros. On en a en projection avec Alex Bex, un jeune franco-américain. Un grec aussi qui travaille sur le départ de son fils de la maison. Donc plusieurs choses qui tournent autour de cette place du père ou du fils. Donc c'est une tendance aussi intéressante.
Sachant que ce sont des fils qui s'expriment, puisqu'on l'avait dit, ils sont jeunes pour la plupart, c'est des photographes.
Ouais.
Ils sont fils plus que père pour le coup.
Voilà.
Alors, Est-ce que ça signifie ce que vous nous expliquez, qu'il faut visiter ces expos avec le goût de la découverte, l'esprit de curiosité, plutôt qu'à partir de la connaissance qu'on peut avoir ou de l'imaginaire qu'on peut avoir de la production habituelle, voire conventionnelle? Est-ce que c'est ça le bon cheminement de l'œil et de la pensée pour profiter pleinement des expos?
Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut arriver en se disant on vient sur un champ artistique qui est ouvert à plein de choses, qui va être parfois déroutant, qui va être assez éloigné de ce qu'on peut rencontrer, par exemple, à Visa pour l'image, où on a un rapport toujours très direct à l'actualité. Ici, ce n'est pas à l'actualité en tant qu'événement, c'est à ce qui imprègne l'air et ce qui imprègne la vie des personnes, des individus aussi. Donc quelque chose qui parle à la fois de l'intimité et de ce qui est en fond de tableau des grandes questions actuelles, avec des formes parfois déroutantes.
Alors donc, il y a cette manière d'aborder. Alors, vous l'expliquez, les boutiques jouent donc un rôle de défricheur, de nouvelles formes d'expression par la photo. Et vous l'avez dit, mais on va y venir. Les 8 expos sont complétées, toujours, si vous l'avez vu, par 10 projections. Alors pourquoi d'avoir choisi cette forme de présentation de ces travaux complémentaires?
Alors les projections sont arrivées assez tard dans l'histoire du festival, au moment où l'afflux de dossiers était, de bons dossiers était tel qu'on s'est dit, il y a beaucoup de dossiers qu'il est très très dommage de ne pas montrer.
C'était injuste de laisser d'autres travaux dans l'ombre.
Vraiment injuste, mais on n'avait plus de place sur les murs, donc très naturellement on s'est dit on va montrer ça en projection. Et ça a ouvert du coup une autre façon de montrer des images, parce que c'est des petits montages, c'est de la bande-son, c'est des possibilités d'agencement variés des images, et donc c'est un spectacle différent.
Alors, j'ai cité les photographes dans les tirages, ils sont accrochés, donc je vais donner aussi le nom de ces talents, donc Julien Atonadi, Jade Joannès et Limon Ferrier, de Français, Camille Signoglou, qui a des attaches à la France et en Allemagne, Alex Bex en France et aux États-Unis. On voit toujours le côté quand même cosmopolite. Hein. Masoumé Barami d'Iran, donc c'est pas l'Europe stricto sensu.
Mais elle vit en France.
Elle vit en France. Nicolas Dickmans, Belgique. Ludovica Limido, Italie. Dimitris Mitas, Grèce. Et enfin, Vinka Forona de Pologne. Alors, vous l'avez fait, mais un petit commentaire général sur ces talents. Quelle est la vision, encore une fois, complémentaire ou convergente peut-être avec ce qu'on voit dans les photos qui sont accrochées?
Alors en projection, on va voir plus souvent des formes un peu plus documentaires, parce que c'est des projets qui ont moins besoin d'une mise en espace, qui sont parfois moins plasticiens, moins scénographiés. C'est pour ça aussi qu'on les oriente davantage vers la projection. Et donc il y a une partie du public qui justement attend des formes un peu plus traditionnelles et un peu plus narratives, qui va trouver aussi son compte dans la projection.
Et combien de temps dure-t-elle ces projections? Elles sont variables, j'imagine, mais grosso modo.
Alors c'est environ 50 minutes, puisqu'on a aussi un petit film qui est lié à un accrochage, à une expo.
50 minutes au total.
50 minutes au total, d'accord. En boucle, en continu. Donc d'accord. Vous pouvez rentrer dans la salle, qui est une belle salle, à n'importe quel moment.
Parce qu'elles sont projetées dans un espace distinct du lieu où sont accrochées les autres.
Oui, qui est à côté, hein, mais qui est en fait voué à ça, puisque c'est un auditorium de 100 places, avec du son cinéma, un grand écran, donc de très bonnes conditions.
Meilleur
pavillon en réalité.
Voilà. Très bien, on verra l'an prochain comment ça se passe. Qu'on le veuille ou non, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les métiers de création, et pas seulement, constitue un enjeu majeur, avec d'enthousiasmantes perspectives et aussi d'inquiétantes menaces. Avec la vision large que vous avez, quel est à ce jour l'impact de l'IA sur les photographes et sur les photographies? Est-ce quelque chose qui apparaît, en tout cas?
Alors, il y a une grande méfiance à l'égard de ça, même si c'est pas, c'est la capacité de l'IA à remodeler les images, c'est pas une nouveauté totale. On a toujours retouché les images. Mais le grand danger,
c'est peut-être les retouches à partir des prises de vue, sous diverses formes, elles existaient.
Ça a toujours été le cas.
Tous
les régimes totalitaires ont redécoupé, modifié des images, c'est pas nouveau. Je crois que le danger en fait de l'IA, il est ailleurs, il est dans le fait qu'elle construit des images à partir d'une masse d'images qui sont elle-même déjà normalisée existante. Et elle a tendance à faire du plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire finalement du cliché, mais au sens le plus pauvre voilà. du terme. C'est ça le problème de l'IA. Donc beaucoup des artistes qui s'y intéressent chez nous, en fait, travaillent dans un sens critique à l'égard de l'IA, c'est-à-dire essayent justement de la dévoyer dans son principe, c'est-à-dire de la détromper, de la mettre en difficulté avec des consignes qui ne sont pas les consignes attendues. Donc c'est ça le travail qui est fait avec l'IA aujourd'hui par certains des auteurs qu'on montre, notamment Sacha Velichko, la Biélorusse.
Alors, j'en profite pour dire que cette idée, de rappeler que l'idée, je crois, quand on a compris ça, on a compris l'IA, c'est que l'IA ne travaille qu'à partir de l'existant, et même ce cas de plus commun, l'existant.
Exactement.
Et donc, quand on a une logique de création, même si ce n'est pas une création artistique qui fera date, c'est là que s'opère le distinguo. Alors, on va l'évoquer, on a quelques minutes pour le faire. Il n'y a pas que la sélection officielle telle qu'on la voit sur la ville, il y a bien d'autres lieux, d'autres formes qui sont proposées. Donc, je vais en citer quelques-unes pour faire un balayage. Je renvoie les auditeurs et les auditrices au site internet, imboutographie.com, à l'hôtel d'Aurès, donc, s'appelle Fractures et Fragments, une résidence sur le handicap proposée par Laurence Briat, qui vit et travaille près de chez nous à Saint-Climent-de-Rivière, avec un partenariat qui se perpétue depuis quelques années, là, donc, autour de cette question du handicap, notamment.
Oui. Avec l'association des paralysés de France, et bon, c'est une expérience très riche parce que ça nous permet à nous de nous ouvrir à des questions que bon, on est parfois très très éloignées, et à l'artiste aussi. Et je pense que ce qu'elle a réalisé cette année est vraiment très beau et très intéressant. Oui.
Donc, à l'hôtel, passage à l'hôtel d'Aurès. Ensuite, il y a une section parallèle. Donc, je vous invite à en dire un mot. À la maison de Heidelberg, vous l'avez évoqué. À l'Orangerie du Jardin des Plantes, ce lieu-là, donc, rénové il y a quelques années, qui accueille des manifestations. Et enfin, à la Faculté des Sciences, un petit commentaire, là, sur cette triple offre.
Oui, alors, Fac de Sciences, on a depuis plusieurs années un partenariat autour d'ateliers d'écriture. Ça peut paraître étonnant pour une Fac de Sciences, mais ils ont un club d'étudiants passionnés de littérature. Et depuis plusieurs années, ils écrivent autour de séries photos qui sont en exposition. Et cette année, l'expo, elle est dans leur mur, c'est la nouveauté. Donc il y a eu un travail avec l'auteur qui est venu donc, de Belgique pour produire des textes, pour discuter autour d'une œuvre qui est à la fois artistique et scientifique. Voilà. C'est aussi la particularité.
Et au Jardin des Plantes, qu'est-ce qu'on peut voir jusqu'au 1er juin ?
Donc dans l'Orangerie, c'est un travail de Vanessa Chambard qui est un comeback puisqu'on l'a exposé il y a quelques années. Et c'était un très beau travail autour d'un changement de vie vers la ruralité, puisqu'elle devient bergère. Alors, elle parle de cette expérience avec vraiment un regard très, très particulier, très intéressant. Et puis, le lieu s'y prête, hein, c'est un magnifique lieu.
Et enfin, Maison de Heidelberg.
Maison d'Heidelberg, traditionnellement, c'est quelqu'un qui vient du monde germanophone, puisque c'est leur vocation. Et c'est le cas cette année avec Henri Schulz, qui vient d'une école dont on expose assez souvent les étudiants.
Ah, qui est une source importante de vos prospections.
Oui, c'est l'Ostkreuzschule qui, de mon point de vue, est l'une des toutes meilleures écoles européennes actuellement et qui produit encore une fois là, un travail très intéressant sur l'Allemagne qui est un pays de photographie extrêmement important. Et qui reste
oui, parce qu'il y a une tradition historique qui se perpétue donc, et qui se renouvelle.
Ah, complètement, oui. C'est l'Allemagne, avec l'après-guerre et tout ce retour sur sa propre histoire, sur l'usage qu'elle a pu faire des images, justement, s'est interrogée énormément, sur, notamment avec l'école de Düsseldorf, les époux Becher et toute cette école artistique très importante. Et elle a suscité beaucoup, beaucoup de vocations et de travaux très intéressants.
Alors, comme tous les grands festivals ailleurs, à Avignon, par exemple, ça s'appelle OFF, avec deux F. À Montpellier, il y a la section Hors les Murs, donc dans la galerie du Bar à Photo, Upside Down Gallery, ACB & Co. Et à Castries, l'espace Paradin. Alors, petit parcours, si vous le voulez bien, on dispose du temps nécessaire pour vous nous en disiez un mot. Et inviter les auditeurs à sortir du centre-ville et aller voir ce qui se passe ailleurs.
Oui, alors c'est une programmation dont nous n'assurons pas directement le commissariat. Donc mais c'est toujours intéressant d'avoir ce maillage avec des lieux associatifs ou des partenaires et pour diffuser la photo dans des lieux parfois un peu inattendus, hein, et de montrer donc des auteurs qui sont souvent des auteurs locaux. ce qui n'empêche pas qu'il soit très talentueux. Et donc ça, c'est intéressant parce que aussi c'est toujours intéressant de se balader dans cette ville et d'avoir la photo comme prétexte finalement pour aller dans, oui. dans les quartiers.
Oui, hein, une déambulation.
Pour déambuler.
Vélocipédique voilà, et visuelle et photographique.
Voilà, et on peut y aller en vélo aussi. D'ailleurs, à ce propos, je signale qu'on a un circuit vélo qui permet de faire le tour de ces Hors-les-Murs.
Alors, j'allais dire, ça s'appelle Bout au vélo. Il y a des circuits qui sont proposés, c'est un samedi, je pense, les 17 et 24 mai,
c'est ça, deux samedis.
Pour proposer un itinéraire et découvrir une bonne partie dans des expos que nous venons de présenter. Alors, je renvoie une nouvelle fois vers le site photographie.com pour ceux des auditeurs qui voudraient en savoir plus long sur les lieux, les adresses, etc., les dates. Peut-être un dernier conseil, Christian Makota, de nous donner, peut-être pour attirer notre attention sur quelque chose qui apparaît pas immédiatement comme très intéressant ou novateur, qui, à vos yeux, doit être mis en relief dans cette offre très large, diversifiée que les photographies version 25e édition nous propose cette année.
Moi, je mettrais l'accent sur l'une des photographes, déjà qui a obtenu d'ailleurs le grand prix, qui a été décerné dès le premier week-end, c'est Sacha Velichko, qui a un travail qui n'est pas forcément facile, mais qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse et qu'on
donc,
s'y attarde.
Donc, on la voit aux échelles de la ville, donc
C'est la sélection officielle, voilà, donc aux échelles de la ville. Donc, un travail qui parle à la fois de la presse, de ce qu'est un régime comme le régime biélorusse avec...
C'est un travail, quand même, je vous prouve, que sur... la manipulation de l'information. En tout cas, comment voilà. Donc il y a des travaux là-dessus, universitaires, journalistiques, militants, sur ce sujet. Là, c'est une approche artistique.
Et sur l'absurde qui est mis en œuvre par la justice biélorusse, qui est illustrée par ces images et aussi par en fait, l'usage de titres de la presse comme prompt pour l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que les titres de presse produisent des images. Et donc c'est toute cette chaîne de signification qui ajoute de l'absurde à l'absurde, qui décrit assez bien le monde kafkaïen que peut être le monde de la Biélorussie ou celui de Poutine.
Alors le point, je vous explique, c'est la consigne donnée à la machine, au système de l'intelligence artificielle pour produire quelque chose. Donc c'est la formulation de cette consigne, le prompt, qui est donc reprise, retravaillée, repensée, revisitée.
Voilà, qui donne des sortes de vérités alternatives qui n'ont rien à voir avec la vérité, quoi.
Alors pour conclure, Christian Makota, notre parcours commun, la dernière question, je la pose souvent à mes invités, c'est quelle est l'idée reçue, l'idée fausse que vous rencontrez là sur l'univers dans lequel vous évoluez, la passion que vous avez démontrée et idée reçue que vous efforcez de flinguer ou en tout cas
de repenser
ou de démentir.
Voilà. Y a une idée reçue qui court sur la photo souvent, c'est que c'est un clic, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, fugitif, sans en passer ni lendemain. Or, construire un projet comme ceux que nous montrons, c'est souvent, non pas des mois, mais des années de travail. C'est-à-dire, c'est des phases de mise en confiance dans un certain milieu, dans un certain monde. Donc, une capacité de relation, déjà. Ça commence souvent par ça. Et puis, c'est une compréhension d'un contexte. Et puis, c'est un peu plus tard, beaucoup plus tard, parfois, on commence à faire des images. Et puis, on les retravaille une fois qu'elles sont faites. On les repense, on travaille des supports. Donc, c'est beaucoup de travail. Le travail photo.
Donc, allons voir ces travaux divers et variés, comme on vous l'a dit. Merci, Christian Makota, d'être venu au micro de Divergence.
Merci à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, une pure jus.
Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.